Mais c'est comme ça qu'elles sont, jeune homme. Vous n'êtes pas d'accord ?
Écoutez, monsieur Tage, c'est vous qu'on interviewe, pas moi.
Autrement dit, vous vous donnez le beau rôle, hein ?
Si cela peut vous faire plaisir, mon rôle ne m'a pas paru si beau jusqu'à présent. Vous m'en avez fait baver plusieurs fois.
Ça me fait plaisir, en effet.
Bien, revenons à nos organes. Je récapitule, plume, couille, bite, lèvres, oreilles et mains, c'est tout ?
Ça ne vous suffit pas.
Je ne sais pas, j'aurais imaginé autre chose.
Ah oui, qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Une vulve, une prostate ?
Cette fois, c'est vous qui êtes trivial. Non, vous allez certainement vous foutre de moi, mais je pensais qu'il fallait aussi un cœur.
Un cœur ? Grand Dieu, pour quoi faire ?
Pour les sentiments, l'amour.
Ces choses-là n'ont rien à voir avec le cœur. Elles concernent les couilles, la bite, les lèvres et la main, c'est bien suffisant.
Vous êtes trop cynique. Je ne serai jamais d'accord avec cela.
Aussi, votre opinion n'intéresse-t-elle personne, comme vous le disiez vous-même il y a une minute. Mais je ne vois pas où est le cynisme de ce que je vous ai dit. Les sentiments et l'amour sont affaires d'organes, nous sommes bien d'accord. Notre désaccord porte seulement sur la nature de cet organe. Vous y voyez un phénomène cardiaque ? Je ne m'insurge pas, moi. Je ne vous envoie pas des adjectifs à la figure. Je me borne à penser que vous avez des théories anatomiques bizarres. Et à ce titre, intéressantes.
Monsieur Tache, pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre ?
Qu'est-ce que vous me chantez là ? Je ne fais semblant de rien du tout, espèce de mal élevé.
Mais enfin, quand je parlais du cœur, vous saviez bien que je n'en parlais pas à titre d'organe.
Ah non ! À quel titre en parliez-vous alors ?
À titre de sensibilité, d'affectivité, d'émotivité, voyons.
Tout ça dans un bête cœur plein de cholestérol.
Allons, monsieur Tache, vous n'êtes pas drôle.
Non, en effet. C'est vous qui êtes drôle. Pourquoi venez-vous me dire ces choses qui n'ont rien à voir avec notre propos ?
Oseriez-vous dire que la littérature n'a rien à voir avec les sentiments ?
Voyez-vous, jeune homme, je crois que nous n'avons pas la même conception du mot « sentiment ». Pour moi, vouloir casser la gueule à quelqu'un, c'est un sentiment. Pour vous, pleurer dans la rubrique courrier du cœur d'un magazine féminin, c'est un sentiment.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Pour moi, c'est un état d'âme. C'est-à-dire une jolie histoire bourrée de mauvaise foi qu'on se raconte pour avoir l'impression d'accéder à la dignité d'être humain, pour se persuader que même au moment où on fait caca, on est empli de spiritualité. Ce sont surtout les femmes qui inventent les états d'âme, parce que le genre de travail qu'elles font laisse la tête libre. Or, une des caractéristiques de notre espèce est que notre cerveau se croit toujours obligé de fonctionner, même quand il ne sert à rien. Ce déplorable inconvénient technique est à l'origine de toutes nos misères humaines. Plutôt que de se laisser aller à une noble inaction, à un repos élégant tel le serpent endormi au soleil, le cerveau de la ménagère, furieux de ne pas lui être utile, se met à sécréter des scénarios débiles et prétentieux. D'autant plus prétentieux que la tâche de la ménagère lui paraîtra basse. C'est d'autant plus bête qu'il n'y a rien de bas à passer l'aspirateur ou à récurer des chiottes. Ce sont des choses qu'il faut faire, voilà tout. Mais les femmes s'imaginent toujours qu'elles sont sur Terre pour quelques missions aristocratiques. La plupart des hommes aussi, d'ailleurs. Avec moins d'obstination, cependant, parce qu'on leur occupe le cerveau à l'aide de comptabilité, d'avancement, de délation et de déclaration d'impôts, ce qui laisse moins la place aux élucubrations.
Je crois que vous retardez un peu. Les femmes aussi travaillent à présent et ont des soucis identiques aux hommes.
Que vous êtes naïf. Elles font semblant. Les tiroirs de leur bureau regorgent de vernis à ongles et de magazines féminins. Les femmes actuelles sont encore pires que les ménagères d'antan, qui, elles, au moins, servaient à quelque chose. Aujourd'hui, elles passent leur temps à discuter avec leurs collègues de sujets aussi substantiels que leurs problèmes de cœur et de calories, ce qui revient exactement au même. Quand elles s'ennuient trop, elles se font sauter par leurs supérieurs, ce qui leur procure l'ivresse délicieuse de foutre la merde dans la vie des autres. Ça, pour une femme, c'est la plus belle promotion. Quand une femme détruit la vie d'un autre, elle considère cet exploit comme la preuve suprême de sa spiritualité. « Je fous la merde, donc j'ai une âme !» Ainsi raisonne-t-elle.
À vous entendre, on jurerait que vous avez un compte à régler avec les femmes.
Et comment? C'est l'une d'entre elles qui m'a donné la vie, alors que je ne lui avais rien demandé.
Vous venez de parler comme si vous étiez en plein âge ingrat.
Faux. Je suis plus que jamais en plein âge gras.
Très drôle. Mais un homme a été aussi pour quelque chose dans votre naissance.
Je n'aime pas les hommes non plus, vous savez.
Mais vous détestez les femmes encore davantage. Pourquoi?
Pour toutes les raisons que je vous ai déjà énumérées.
Oui. Voyez-vous, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un autre motif. Votre misogynie pue le désir de vengeance.
Vengeance? Mais de quoi? J'ai toujours été célibataire.
Il n'y a pas que le mariage. Du reste, vous ne connaissez peut-être pas vous-même l'origine de ce désir de vengeance.
Je vous vois venir. Non, je refuse d'être psychanalysée.
Sans aller jusque-là, vous pourriez peut-être y réfléchir.
Mais réfléchir à quoi, grand Dieu?
Aux relations que vous avez eues avec les femmes.
Quelles relations? Quelles femmes?
Ne me dites pas que...
Non. Quoi? Non.
Vous seriez...
Quoi? À la fin?
Vierge?
Bien sûr!
C'est impossible!
C'est absolument possible!
Ni avec une femme, ni avec un homme.
Vous trouvez que j'ai une gueule de tapette?
Ne le prenez pas mal. Il y a eu des homosexuels très brillants.
Vous me faites rire. Vous dites ça comme vous diriez. Il y a même eu des souteneurs honnêtes. Comme s'il y avait une contradiction entre les termes homosexuel et brillant. Non, je m'insurge contre votre refus d'admettre que je puisse être vierge.
Mettez-vous à ma place.
Comment voulez-vous qu'un être tel que moi se mette à votre place?
C'est impensable. Dans vos romans, vous parlez du sexe comme un spécialiste, comme un entomologiste.
Je suis docteur en masturbation.
La masturbation peut-elle suffire à connaître si bien la chair?
Pourquoi faites-vous semblant de m'avoir lu?
Écoutez, je n'ai pas besoin de vous avoir lu pour savoir que votre nom est associé au discours sexuel le plus précis, le plus expert.
C'est marrant, ça. Je ne savais pas.
Je suis même tombée récemment sur une thèse qui portait le titre suivant « Le priapisme tachien à travers la syntaxe ».
Comique. Les sujets des thèses m'ont toujours amusé et attendri. C'est mignon, ces étudiants qui, pour imiter les grands, écrivent des sottises dont les titres sont hyper sophistiqués et dont le contenu sont la banalité même, comme ces restaurants prétentieux qui affublent les œufs mayonnaise d'appellations grandioses.
Il va de soi, monsieur Tache, que si vous le désirez, je n'en parlerai pas.
Pourquoi? Ce n'est pas intéressant.
Au contraire, ce ne l'est que trop, mais je ne voudrais pas trahir un pareil secret.
Ce n'est pas un secret.
Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit, alors?
Je ne vois pas à qui je l'aurais dit. Je ne vais quand même pas chez le boucher pour parler de ma virginité.
Bien sûr, mais il ne faut pas le raconter aux journaux non plus.
Pourquoi? La virginité est interdite par la loi?
Voyons, cela fait partie de votre vie privée, de votre intimité. Et tout ce que vous m'avez demandé jusqu'à présent, espèce de faux cul, ça ne faisait pas partie de ma vie privée? Vous ne faisiez pas tant de manières à ces moments-là? Inutile de jouer tout à coup les vierges effarouchées. C'est le cas de le dire. Ça ne prend pas. Je ne suis pas d'accord. Il y a dans l'indiscrétion des limites à ne pas franchir. Un journaliste est forcément indiscret, c'est son métier. Mais il sait jusqu'où il ne doit pas aller. Vous parlez de vous à la troisième personne maintenant. Je parle au nom de tous les journalistes. Voilà bien le réflexe de caste. Typique des couards. Moi, c'est en seul nom que je vous réponds, sans autre garantie que moi-même. Et je vous dis que je ne me plierai pas à vos critères, que c'est à moi de définir ce qui, dans ma vie privée, est secret ou ne l'est pas. Ma virginité, je m'en fous complètement. Faites-en ce qu'il vous plaira. Monsieur Tache, je crois que vous ne vous rendez pas bien compte des dangers de cette révélation. Vous vous sentiriez sali, violé. Dites donc, jeune homme, c'est à moi de vous poser une question. Êtes-vous stupide ou masochiste?
Pourquoi cette question?
Parce que si vous n'êtes ni stupide, ni masochiste, je ne m'explique pas votre comportement. Je vous livre un superbe scoop, je vous le donne dans un beau geste de générosité désintéressée, et vous, au lieu de sauter sur l'occasion comme un rapace intelligent, vous vous inventez des scrupules? Vous faites mille manières? Savez-vous ce que vous risquez si vous continuez? Vous vous exposez à ce que, par exaspération, je vous confisque le scoop, non pour préserver ma sacro-sainte vie privée, mais tout simplement pour vous emmerder. Apprenez que mes élans de générosité ne durent jamais longtemps, surtout quand on m'énerve. Alors soyez prompt et prenez ce que je vous offre avant que je ne vous l'enlève. Mais vous pourriez quand même me remercier. Ce n'est pas tous les jours qu'un prix Nobel vous offre sa virginité, non?
Je vous remercie infiniment, monsieur Tache.
Voilà. J'adore les lèches-culs dans votre genre, mon cher.
Mais c'est vous-même qui me demandiez de...
Et alors? Vous n'êtes pas forcé de faire tout ce que je vous demande?
Bien, revenons à notre sujet précédent. À la lumière de votre dernière révélation, il me semble que je peux comprendre l'origine de votre misogynie. Oui, votre désir de vengeance envers les femmes ne proviendrait-il pas de votre virginité?
Je ne vois pas le rapport.
Mais si, vous détestez les femmes parce qu'aucune n'a voulu de vous. Le romancier éclata de rire. Ses épaules en étaient secouées.
Excellent! Vous êtes très comique, mon vieux.
Dois-je comprendre que vous réfutez mon explication?
Je crois que votre explication se réfute toute seule, monsieur. Vous venez d'inventer un exemple édifiant de causalité inversée. Exercice où excellent les journalistes, d'ailleurs. Mais vous... Vous avez tellement inversé les données du problème que c'en est vertigineux. Ainsi, vous dites que je déteste les femmes parce qu'aucune n'a voulu de moi, alors que c'est moi qui n'ai voulu d'aucune d'entre elles, et pour la très simple raison que je les détestais. Double inversion. Bravo. Vous êtes doué.
Vous voudriez me faire croire que vous les détestez a priori sans raison? C'est impossible.
Citez-moi un aliment que vous détestez.
La raie? Mais
pourquoi ce désir de vengeance envers cette pauvre raie?
Je n'ai aucun désir de vengeance envers la raie. J'ai toujours trouvé cela mauvais, c'est tout.
Eh bien voilà, nous nous comprenons. Je n'ai aucun désir de vengeance envers les femmes, mais je les ai toujours détestées. C'est tout.
Enfin, monsieur Tache, vous ne pouvez pas comparer. Qu'est-ce que vous diriez si je vous comparais à de la langue de veau?
J'en serais très flatté. C'est délicieux.
Allons, soyez sérieux.
Je suis toujours sérieux. Et c'est bien dommage pour vous, jeune homme, parce que si je n'étais pas si sérieux, je ne remarquerais peut-être pas que cette entrevue a été d'une longueur sans précédent et que vous ne méritiez pas une telle générosité de ma part.
Qu'ai-je donc fait pour ne pas la mériter ?
Vous êtes un ingrat. Et vous êtes de mauvaise foi.
Je suis de mauvaise foi, moi. Et vous ?
Insolent ! J'ai toujours su que ma bonne foi ne me vaudrait rien. Non seulement on ne la remarque pas, mais on l'inverse. Il est vrai que vous êtes un spécialiste des inversions. On la qualifie de mauvaise foi. Mon sacrifice n'aura servi à rien. Il m'arrive de penser que si c'était à refaire, je jouerais à fond la carte de la mauvaise foi pour connaître enfin votre confort et votre estime. Et puis je vous regarde et vous me répugnez tellement que je me félicite de ne pas vous avoir imité, même si ça m'a condamné à la solitude. La solitude est un bienfait. Si elle m'éloigne de votre fange, ma vie est moche, mais je la préfère à la vôtre. Partez, monsieur. Je viens de finir ma tirade. Alors ayez le sens de la mise en scène. Ayez le bon goût de partir.
Au café d'en face, le récit du journaliste relança le débat.
Dans de pareilles conditions, la déontologie nous permet-elle de continuer les entrevues ?
Tâche nous répondrait sûrement qu'il faut être des faux culs pour parler de déontologie dans notre métier.
C'est certainement ce qu'il nous dirait, mais il n'est pas le pape quand même. Nous ne sommes pas forcés d'avaler ses horreurs.
Le problème, c'est que ses horreurs puent la vérité.
Ça y est, vous marchez dans son cirque. Je regrette, mais je ne parviens plus à le respecter, ce type. Il est trop impudique.
C'est bien ce qu'il disait, tu es un ingrat. Il te donne un scoop de rêve et pour tout remerciement, tu le méprises.
Mais enfin, tu n'as pas entendu les injures qu'il m'a dites ?
Précisément, elles me permettent d'expliquer ta rage. Je suis si impatient que ce soit ton tour, on va rire.
Moi aussi, je suis impatient que ce soit mon tour.
Et ce qu'il a dit sur les femmes, vous avez entendu ?
Oh, on ne peut pas lui donner tout à fait tort.
Vous n'avez pas honte. Heureusement qu'il n'y a pas de femme avec nous pour vous entendre. Au fait, qui passe demain ?
Un inconnu, il n'est pas venu se présenter.
Et pour qui travaille-t-il ?
On ne sait pas.
N'oublie pas que Gravelin nous demande à chacun une copie de nos enregistrements. On lui doit bien ça.
Ce type est un saint.
Depuis combien d'années travaille-t-il pour Tâche ?
Ça n'a pas dû être drôle tous les jours.
Oui, mais pour travailler pour un génie, ça doit être fascinant.
Le génie a bon dos dans cette affaire.
Au fait, pourquoi Gravelin veut-il écouter les bandes ?
Besoin de mieux connaître son tortionnaire.
Je comprends ça.
Je me demande comment il fait pour supporter le gros.
Cesse d'appeler Tâche comme ça. N'oublie pas qui il est.
Pour moi, depuis ce matin, il n'y a plus de Tâche. Il sera toujours le gros.
On ne devrait jamais rencontrer les écrivains.